is from an INALCO professor, François Massey. Am I pronouncing that correctly? And it's a very interesting, and I think will be a perfect wrap-up for many things that we've been talking about, because he's talking about the rights between reason and precedence in the early modern period, and that would be the end of the 17th and into the early 18th century.
Tout d'abord, je remercie les organisateurs de m'avoir invité et de m'avoir permis de parler en français. C'est une version ultra courte de ce que j'avais préparé. J'espère que ça reste cohérent. Le 11 décembre 1711, une ambassade de Corée fut accueillie au château d'Edo. Cette huitième ambassade, depuis le début de la prise de pouvoir des Tokugawa, n'avait a priori rien d'exceptionnel. Elle venait féliciter le sixième shogun, Ienobu, de son arrivée aux affaires. Ce type d'ambassade était devenu d'usage depuis le troisième shogun, Iemitsu. Elle est pourtant restée dans les mémoires quand elle fut le symbole des bouleversements de l'étiquette qui agitaient les cercles du pouvoir à cette époque. Cette ambassade mit en lumière les tensions entre le pouvoir réel, celui du shogun et des guerriers, et la source de la légitimité, l'empereur de Kyoto, à une époque où toutes les élites, guerriers, nobles, lettrés, partageaient la même culture confucéenne du rite. Ce sont ces multiples aspects que je voudrais aborder. Hakuseki avait été l'organisateur de la réception de cette ambassade. J'aimerais voir quels étaient les enjeux pour lui des réformes qu'il a voulu imposer. Hakuseki était le véritable inspirateur de la politique du sixième shogun, donc de Ienobu. Guerrier formé par le confucianiste Kinoshita Juhan, il s'efforça de mettre en pratique au plus haut niveau l'enseignement des lettrés. En bon confucianiste, il s'attacha en premier à la rectification des noms. Ce fut une des raisons de sa politique monétaire. En réaction contre l'altération de la monnaie, il fit fondre de nouvelles pièces de bon aloi. Cette volonté de faire correspondre les dénominations et réalités la mena à faire changer le nom du bâtiment où l'on célébrait les précédents shoguns. Pour rendre manifeste que le centre du pouvoir se trouvait bien au château d'Edo, il fit bâtir à l'entrée du palais une porte magnifique, Nakanomon, donc la porte du milieu, orientée vers le sud, bien évidemment. Soucieux de faire clairement apparaître l'ordre hiérarchique, il réforma les tenues, formes et couleurs que les daimyo devaient porter lors des audiences solennelles devant le shogun, Ome Mie. Hakuseki était persuadé que l'exécution de ces audiences, en conformité avec les rites, exprimerait et conforterait le lien social. Parmi les nombreuses modifications qu'il apporta au protocole d'accueil de l'ambassade coréenne, celle qui est le plus souvent citée, fut le changement de la titulature du shogun. Il exigea en effet que les Coréens s'adressent au shogun en tant que kokuro, que souverain. Au Japon, son titre officiel était bien entendu Seitai Shogun, généralissime pour la pacification des barbares. Titre qui désignait simplement à l'origine un chef militaire et non souverain de fait que ses titulaires étaient devenus. Si ce titre ne posait guère de problème au Japon à usage interne, il n'en est pas de même avec les relations diplomatiques. Le nouveau pouvoir de Tokugawa avait en effet renoué des relations avec les royaumes de Ryukyu et de Corée. Dans ce cadre, après quelques tâtonnements, les shoguns avaient choisi de se faire appeler Taikun, grand seigneur. Mais pour Hakuseki, le shogun était le véritable souverain du Japon. Il se devait donc de porter sans équivoque le titre de souverain, donc de Kokuro. Dans la pensée de Hakuseki, le fondateur de la dynastie Ieyasu avait reçu le mandat céleste. L'empereur de Kyoto pour les shoguns correspondait peu ou prou à celui de la Chine, souverain relativement lointain, pour les rois coréens. Cette demande souleva des oppositions parmi les gens de la cour, parmi beaucoup de gens. Hakseki, pourtant, l'imposa. Et l'ambassade coréenne dut se prêter, de se soumettre à ses exigences. Il veilla particulièrement au protocole lors de la réception de cette ambassade au château d'Edo. Il en a laissé plusieurs descriptions minutieuses. Il apporta entre autres innovations importantes le remplacement du spectacle de No, art très prisé par les guerriers, par le Gagaku. Cette musique de cour avait été introduite au Japon au cours des 7e et 8e siècles, d'abord à partir de la Corée, puis directement de la Chine des Tang. Pour Hakuseki, cette musique d'origine continentale était la seule en accord avec la sonalité des rites. Ce fut donc un spectacle de cour à la chinoise qui fut offert à l'ambassade coréenne. Parmi les guerriers, mais aussi certains lettrés, ces nouveautés ne firent pas l'unanimité. Un peu plus tard, Hattori Dankako jugea que, je cite, « Hakuseki avait eu l'intention de rendre Edo pareil au palais impérial. Il détestait les guerriers. En les déstabilisant, il provoqua le désordre. En ne parlant que de rectifier les noms, il faisait passer au second plan la conduite des affaires publiques. » La première partie du reproche n'est pas tout à fait infondée. Ce sont bien les rites du palais impérial, fortement imprégnés eux-mêmes de la tradition confucéenne, qui inspiraient les transformations voulues par Hakuseki. Il songea même à modifier la cérémonie d'investiture des shoguns, Seiyi Tai Shogun Senge, sur le modèle d'un des rites d'avènement de la cour, le Sokui, l'apparition solennelle du nouveau souverain devant la cour. Il était allé lui-même assister à Kyoto, donc au rite d'avènement de l'empereur Nakamikado, le 114e Tenno. Lors de ce rite, le Tenno revêtait un costume brodé avec le dragon impérial à cinq doigts. Le souci constant de souligner la prééminence du shogun se retrouve dans la maîtrise du temps. Depuis l'Antiquité, c'était l'empereur qui décidait les changements d'air. Toutefois, le processus de ce changement avait fait l'objet de l'article 8 des règlements relatifs à la cour et aux nobles, règlement imposé en 1615 par le shogunat à la cour. Il y était spécifié qu'il fallait choisir l'air parmi les noms d'air chinois et en suivant les précédents japonais. C'est un petit peu compliqué. Le gouvernement de Yenobu et de Hakuseki se déroula principalement pendant l'ère Shōtoku, 1711-1716. Le choix du nom suivit le processus habituel. Envoi d'une liste par la cour de Kyoto, choix du Bakufu, promulgation par la cour du nom d'air. Shōtoku reprenait le nom d'air des Ming. L'ère Shōtoku avait été inaugurée avec près de 2 ans de retard, à l'occasion, dit-on, de l'avènement de l'empereur Nakamikado. Par hasard, le changement d'empereur et celui de shogun eurent lieu la même année, donc en 1709. Le changement d'air correspondait donc à un double avènement, et ce ne serait pas la première fois que le pouvoir shogunal aurait voulu montrer sa maîtrise du temps. Ieyasu avait imposé le passage de l'ère Keicho à l'ère Genna en 1615 pour inaugurer la paix acquise après la chute du château d'Osaka. Le but de Hakuseki était d'établir, 100 ans après la fondation du Bakufu, ce qu'il considérait comme un nouvel état, des rites susceptibles de le prolonger éternellement. Toutefois, en voulant transposer certains usages de la cour de Kyoto au château d'Edo, Hakuseki allait à l'encontre d'autres usages, ceux des guerriers dont je vais parler bientôt. Les rites qu'il souhaitait mettre en place devaient exprimer une vision idéale de la société. Ils étaient d'une logique claire, mais parurent à beaucoup comme artificiels, comme ne reposant pas sur des précédents. Ce fut une des limites du gouvernement des lettrés. Ce gouvernement des lettrés avait été inauguré par le 5e shogun, Tsunayoshi. Le 6e shogun, je vous prie de m'excuser pour toute cette liste de shoguns. Le 6e shogun, Ienobu, sur les conseils de Hakuseki, avait commencé son gouvernement en s'opposant frontalement à son prédécesseur. Il abrogea sa législation la plus connue et la plus décriée, les décrets de compassion envers les êtres vivants. Le choix du gagaku à la place du no n'était pas non plus étranger à cette politique de rupture. Tsunayoshi était connu en effet pour son amour, sinon sa passion pour le no. Cependant, malgré cette rupture, la politique de Yenobu continua sous de multiples aspects celle de Tsunayoshi, notamment la place accordée aux lettrés au confucianisme. Tsunayoshi avait, comme tous les shoguns, renouvelé en 1683 les décrets concernant les maisons guerrières, Buke Shorato. Mais alors que les précédents décrets commençaient par « Les guerriers doivent particulièrement cultiver les lettres, les armes, la voix de l'arc et du cheval », il le remplaça par « Ils doivent s'appliquer aux lettres, aux armes, à la fidélité et à la piété filiale. Ils doivent se conformer aux rites. Ce ne sont plus les armes qui sont mises en avant, elles ne sont plus qu'un devoir parmi d'autres, mais les rites. Le Japon est désormais en paix. La dernière campagne militaire s'était terminée en 1638. C'est dans cette perspective qu'il faut interpréter l'interruption par Tsunayoshi des visites au Toshogo, là où était vénéré Ieyasu, à Nikko. Pour expliquer cette décision, il y eut certainement des motifs économiques, mais il est très probable que la nécessité symbolique de ces visites n'était plus perçue. Le troisième shogun, Iemitsu, grand admirateur de son grand-père Ieyasu, s'y rendit 10 fois. Ces déplacements du shogun, accompagnés des daimyo et de ses vassaux, étaient une véritable démonstration de force, un immense cortège de guerriers. La décision de Tsunayoshi de ne pas se rendre à Nikko marque une date importante dans l'attitude des shoguns vis-à-vis de l'héritage guerrier et de ses coutumes. Edo n'en restait pas moins la capitale des guerriers, et ceux-ci ne se séparaient jamais de leurs sabres, quitte à s'en servir hors de propos, comme dans la célèbre affaire d'Akko, plus connue en Occident sous le titre de « L'histoire des 47 Ronin ». Fallait-il ou non condamner les vassaux fidèles ? Tsunayoshi demanda son opinion à un des anciens, qui consulta à son tour Ogyu Sōlai, l'un des plus grands penseurs de l'époque. En réponse, ce dernier écrivit « Le devoir est la voie qui permet d'être brave. La loi est ce qui régule le monde. Par les rites, on gouverne l'esprit. » Et là, j'abrège. « Du point de vue de la loi, cette vengeance est impardonnable. Les 46 guerriers, convaincus de crime, doivent être condamnés à s'ouvrir le ventre, selon l'étiquette des guerriers ou selon les rites des guerriers. C'est une décision qui ne prend pas à légère leur loyauté. » À l'évidence, le devoir de vengeance héritier des anciennes valeurs des guerriers ne pouvait plus être la valeur absolue, ni face aux intérêts supérieurs de l'État, ni par rapport à un ordre reposant sur les rites. Ne resta plus aux guerriers qu'un dernier espace de violence dans cette société de plus en plus policée, celui de pouvoir s'ouvrir le ventre dans une société, sous une forme ritualisée, évidemment. C'est ce qu'accomplirent parfaitement les 46 Ronin. Les hommes d'Akko échappèrent en effet à une condamnation infamante, la décapitation sans la moindre cérémonie. Pour barbare qu'il puisse paraître, le seppuku faisait partie des samurai no rei, donc des rites guerriers, connus comme les appels le Sōlai. Un autre indice de la pénétration des valeurs confucéennes chez les guerriers fut la promulgation du décret relatif au deuil, Bukirei ou Bukinorei. C'est en 1684 que Tsunayoshi le promulgua à l'occasion de la mort de son fils. Dans le monde de la cour de Kyoto, on se devait en théorie de suivre les règlements de deuil prescrits dans les codes de 701, codes eux-mêmes inspirés des codes chinois, des Sui et des Tang. De plus, la hantise de la souillure était aussi très vive au palais impérial depuis l'époque de Heian. Par contre, les guerriers, confrontés en permanence à la mort, étaient restés longtemps étrangers à ses préoccupations. Quand ils ne mettaient pas en œuvre des comportements extrêmes, comme la mort d'accompagnement, Junshi, qui ne fut définitivement interdite qu'en 1683, par le décret sur les guerriers dont je vous ai parlé. Ce décret sur le deuil fut rédigé sous la direction de Hayashi Hōko, responsable du culte de Confucius à Edo. Parmi les autres personnes qui furent consultées à l'occasion, il faut noter la présence de Kinoshita Jun'an, le maître en études chinoises de Akuseki. Ce décret comportait de nombreuses références au Iili et au Chushi Jiali, si je prononce bien. C'est une vision beaucoup plus légère que les prescriptions chinoises. 50 jours d'interdit et 13 mois de deuil pour les pères et mères. Ces nouvelles prescriptions de deuil pour les guerriers se sont largement répandues dans la population. Ils étaient inspirés par les usages de cour qui, eux-mêmes, comme je l'ai dit, avaient adapté au Japon les prescriptions chinoises. Il est remarquable que ces règles de deuil ne fassent aucune référence au bouddhisme, dont le monopole funéraire avait été établi en 1671. Et il ne fut jamais remis en cause avant Meiji. Dans ce contexte, le cas de Tokugawa Mitsukuni, d'une des branches cadettes de la famille shogunale, est exceptionnel. Confucianiste convaincu, il établit pour son père, puis pour sa famille, un cimetière, donc indépendamment des monastères bouddhiques, où il fut lui-même inhumé, selon le rituel confucéen, dans une tombe à la chinoise. Comme nous venons de le voir pour le deuil, la tradition des études des classiques était restée vivante à la cour parmi les familles spécialisées dans les études chinoises, même après la disparition de l'Office des études supérieures, Tachue, à la fin du XIIe siècle. Déjà, Go-Komyo, le 110e Tenno, avait montré un grand intérêt pour le confucianisme et les études chinoises. En 1651, il préfaça un recueil de textes de Fujiwara Seika, lettré considéré comme le premier confucéen du Japon du temps moderne. C'était la première fois qu'un empereur daignait préfacer l'ouvrage d'un homme du peuple. Go-Komyo s'efforça de restaurer les rites de la cour. En 1646, il rétablit, tout à fait logiquement pour un confucéen, les cérémonies en l'honneur de Confucius Sekiten, dont il était question dans l'exposé précédent. Il rétablit aussi l'Office des études supérieures. Il considérait le bouddhisme comme une étude inutile. Esprit fort, il ouvrit la boîte qui contenait le miroir, un des trois régalia des empereurs japonais. Il y trouva des reliques bouddhiques qu'il fit jeter dans la cour en les traitant d'espèces de bouddhoserie ou bondieuserie, comme vous voulez. Ces funérailles eurent lieu, comme pour ses prédécesseurs, au monastère de Senyuji à Kyoto. On raconte qu'au moment des funérailles, un marchand de poissons est venu dire qu'il n'était pas convenable de brûler le corps précieux de l'empereur. Et finalement, il fut inhumé au lieu d'être incinéré. Leigen, le 112e Tenno, poursuivit la politique de restauration des rites après avoir reconstitué en 1683 le rite de nomination d'un prince héritier qui n'avait plus été célébré pendant 300 ans, il réussit à organiser la première restauration du rite le plus important d'avènement, celui de la grande gustation, Taijoe, en 1687, pour l'avènement de son fils Higashiyama. Ce rite n'avait plus été célébré depuis 1466. Je passe un peu. À la différence des rites comme l'investiture du prince héritier ou celui dans l'honneur de Confucius, la grande gustation n'avait aucune connotation ni référence à la Chine. Elle renvoie aux croyances indigènes du Shinto. La cérémonie eut bien lieu malgré la faiblesse des moyens. Cependant, ce ne fut pas une restauration suivie immédiatement de précédents. Il fallut paradoxalement attendre le retour d'un pouvoir fort à Edo. Et je reviens à Edo. À la mort de Ietsugu, le 7e shogun, Yoshimune, 8e shogun s'empressa d'annuler toutes les réformes qu'avait imposées à Aigoseki. Il fait détruire la porte Nakanomon, il rétablit le no, il rétablit la titulature de Taikun. Yoshimune restaure l'autorité de sa fonction en tant que shogun. Toutefois, il restaura par exemple la chasse aux faucons. Toutefois, les guerriers s'étaient dotés depuis longtemps d'une étiquette tout aussi rigoureuse que celle de la cour. Cette question d'étiquette était si importante que le Bakufu se dota de spécialistes parmi les vassaux directs, les Kōkei. C'est là que l'on trouve les fameuses écoles. Il y a trois écoles à l'époque d'Edo, dont donc la plus connue, les Ogasawa. La réaction de Yoshimune contre les mesures de Hakuseki ne remit pas en cause la progression des rites de la société. Il restera un certain nombre d'événements guerriers, mais ceux-ci étaient déjà très codifiés depuis le 15e siècle. Les formes ritualisées de tir à l'arc avaient disparu au 16e. Yoshimune rassembla les textes et images pour reconstituer ces différentes rites. Tir à cheval, Nagusame, tir au chien, Inu Ou Mono, tir à la cible, Shalai, etc. Ces rites n'avaient plus aucune valeur guerrière à l'époque de Yoshimune, à cause de l'apparition des armes à feu. Célèbre pour le tir à l'arc, l'école de Ogasawara, comme les autres écoles, étendit son influence sur tous les aspects de la vie, depuis la naissance jusqu'à la mort, et les banquets, les cadeaux, etc. Il établit de nouvelles règles dont les usages se diffusèrent largement par-delà même le monde des guerriers. Ogyu Soleil en a fait la critique. Il dit, aujourd'hui, bien que ce ne soit pas un véritable rituel, il y a une étiquette de l'école Ogasawara. Elle ressemble au système des rites et des lois, mais elle ne comporte pas de distinction entre supérieur et inférieur. Il n'y a que des différences entre les trois styles. Et donc j'arrive à la conclusion de la conclusion. En plus d'être un enjeu de pouvoir entre Edo et Kyoto, les guerriers et les nobles de cour, les rites furent un enjeu intellectuel. Les lettrés rêvaient de suivre les rites chinois, ils ne purent jamais les imposer. Enfin, les derniers acteurs apparus, les savants des études japonaises, Koku Kakusha, ne juraient que par le Japon de l'Antiquité, tout en suivant la même démarche archéologique inaugurée par les lettrés abhorrés. On connaît la dette de Motoli Nonaga envers Motoli, qui était le pourfendeur de l'esprit chinois, Karagokoro, envers Solai, admirateur des sages souverains de l'Antiquité chinoise. Guerriers, hommes de cour, lettrés, tous cherchèrent à restaurer les rites avec des succès divers. Les rites guerriers, comme le Yabusame, ne subsistèrent plus que comme des vestiges de plus en plus éloignés de la réalité du temps. Les rites de cour, restaurés, scrupuleusement suivis, ne concernaient au final qu'un milieu très fermé, celui du palais. C'est finalement l'étiquette chère à l'école Ogasawara, adaptation du rite ou de la conception du rite au monde des guerriers, qui eut l'impact le plus profond sur l'ensemble de la société. Je vous remercie.